les femmes et les conquêtes multiples des héros masculins marquent l'univers du romancier. La présence de la peinture est aussi importante dans l'œuvre de Soler. Grand amateur de tableaux, parce qu'ils peuvent être construits comme de véritables romans, Soler, dans son écriture, entretient un dialogue important avec la peinture. Dans votre œuvre, Philippe Soler, la peinture occupe une place très importante, tant dans la construction de l'intrigue que dans l'inspiration. Je pense beaucoup au 18e siècle, Watteau, Fragonard, que vous aimez beaucoup. Tout est essentiel.
Tout dépend. Écoutez, ça c'est... Là aussi, je fais que poursuivre une tradition. Vous savez, dans la littérature française, c'est vraiment très particulier. C'est ce dialogue entre peintre et écrivain. Comme si l'écrivain trouvait dans la peinture, et le peintre parfois dans l'écrivain, dans l'illustration par exemple que fait Fragonard des contes de la Fontaine, ça vient de loin. C'est une tradition d'échanger
en écho
des informations. Oui. Alors c'est Mallarmé sur Manet, c'est Baudelaire sur Delacroix, c'est les surréalistes sur Picasso, c'est tout le temps une allée et venue entre peinture et littérature. C'est une civilisation extrême qui est, que vous trouvez par ailleurs, hein, c'est très très français. Les peintres, les écrivains, les peintres unis dans un même combat, les impressionnistes avec les écrivains, les cubistes avec les écrivains. Voilà. Alors, c'est une communauté esthétique qui a eu Paris pour ça. Et ça, c'est une grande tradition.
Dans la fête à Venise, c'est plus qu'un écho, puisque l'intrigue,
oui,
tout en entier, est construite autour
d'un petit tableau de bateau. Et alors, ça permet de suivre ce qui est en train d'arriver au marché de l'art. Cette très curieuse flambée des prix depuis 10-15 ans, avec des crises, et tout ça remonte. C'est-à-dire que, est-ce que vous rendez compte que l'art, les objets d'art, que ce soit les tableaux, les sculptures, les meubles, sont devenus un des budgets les plus importants de la planète. Et illégal, cela. Si vous voulez faire beaucoup d'argent dans l'illégalité, parfois même dans l'illégalité étatique, vous faites du trafic de drogue, ou les armes, la nourriture
aussi, et les arts,
la prostitution, et les arts. Alors vous avez cette bourse extraordinaire, cette espèce de wolfritisation de l'art, à travers les ventes spectaculaires de Sotheby's et de Christie's, où les peintres obtiennent parfois des prix fabuleux qu'ils n'auraient jamais connus, comme le pauvre Van Gogh, jamais de leur vivant. Et en même temps, vous voyez les Japonais courir après les impressionnistes, après Claude Monet, cette espèce de chasse à l'art, ruée vers l'art, bon, qui est très bizarre.
Que vous dénoncez un peu d'ailleurs dans la...
Ah ben, je ne fais que dénoncer, parce que je suis persuadé que ça ne vient pas du tout d'une estime réelle pour l'art, mais simplement, comme l'aurait dit Warhol, c'est pas qu'on achète de l'art, c'est qu'on achète de l'argent.
La pure
avec de l'art. Avec de l'art. C'est l'idée de Warhol. Pourquoi est-ce que vous n'accrochez pas un paquet de dollars à votre mur plutôt que d'y attacher un tableau par la veine? Ou alors ce tableau que je cite, je crois, dans la fête à Venise, vous voyez un type, pareil comme ça, assis devant un coffre-fort fermé, contemplant son coffre-fort. Et derrière, une femme qui demande à l'homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et la légende, il est en train, la réponse, c'est, il est en train de contempler son Van Gogh.
Dans le cas. Comme le peintre avec sa palette, Soler pense que le romancier est seul capable de bien saisir une époque. Aux charnières de l'histoire, quelques grands auteurs enregistrent l'essence des choses et sont pour toujours la mémoire des hommes, et seul le temps permet de faire la part des grands et des simples chroniqueurs de l'ère du temps.
Il faut très longtemps pour que, par exemple, on s'habitue à penser le règne de Louis XIV à travers le portrait de magistrat noir de Saint-Simon. Il faut du temps. C'est au 19e siècle, Stendhal lit ça. Mais vous vous rendez compte du décalage horaire. Saint-Simon meurt en 1755, c'est le début du 18e siècle. C'est à peine à la fin du 19e siècle que Proust se lit Saint-Simon. Voilà. Il a dit les choses. Il fait un pastiche de Saint-Simon, Proust, pour commencer. Proust, lui-même, voilà, il meurt en 1922. Mais nous en sommes encore à à tourner autour. Il faut aller voir ce qu'il a dit. On n'est pas encore allé à l'universitaire, mais sur la société de son temps, sur l'affaire Dreyfus, par exemple, ou sur l'atmosphère qui suit la Première Guerre mondiale, c'est une richesse considérable. Peut-être que Proust, nous commencerons à l'apprécier dans 20 ans encore. Proust meurt en 1922. Il est très célèbre, il vient d'avoir le prix Goncourt. À partir de là, c'est comme s'il disparaissait pendant 30 ans. Plus personne n'en parle. Les écrivains sont pris par d'autres problèmes. C'est la montée du fascisme, du stalinisme. Mais personne ne parle plus de Proust. C'est comme s'il appartenait à un monde oublié. Hein? Vous n'avez pas un mot sur Proust chez Brieux-La Rochelle. Vous n'avez pas un mot sur Proust chez Malraux, chez Sartre, chez Camus, chez Breton, chez Aragon. Enfin, c'est très étrange.
Oublié.
Oui. Alors que c'est lui qui a tracé les choses les plus vraies sur les vraies passions humaines. Alors tout à coup, vous voyez tous ces écrivains occupés de très grands problèmes, très urgents, très tamaresques, l'histoire mondiale, tout ça. Et puis au bout de 70 ans, où l'Empire soviétique s'écroule, c'est comme si un rêve épouvantable, avec beaucoup de morts, partait en fumée. Et puis vous pouvez peut-être relire Proust, qui vous dit des choses plus graves, plus essentielles. Voilà.
Mais pour qu'on puisse revenir à Proust, ne fallait-il pas que les Malraux et les autres s'attardent justement au système soviétique et à la Deuxième Guerre mondiale?
Peut-être. Parfois, ça fait beaucoup, parfois beaucoup de littérature inutile. C'est ça que je voulais dire. Beaucoup de littérature inutile, périmée, très contestable selon la conjoncture historique. Tandis que Proust reste comme ça. Vous ne pouvez pas contester.
Est-ce que vous faites donc un trait de crayon sur la littérature du XXe siècle après Proust?
Non, parce qu'il y a série, là.
Alors donc, vous êtes quand même très, 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 très méticuleux dans vos choix.
Un peintre va se montrer très, très, très méticuleux, très serré sur ses choix. Il va aimer la peinture, du passé. Toute la grande peinture du passé. Mais à partir du moment où il va se mettre lui-même en jeu, il va faire génétique. Par qui a-t-il été produit? À qui reconnaît-il? Une fonction de paternité, si vous voulez, symbolique. Comme Claudel disait, j'étais engendré par Rimbaud. Bon, vous voyez, c'est un écrivain, un peintre ou un musicien, c'est la même chose. Le choix est radical. Bon, ben alors, Picasso admiré, on nous l'avons appris, bon, le Greco, Velasquez, Rubens, Tintin, tout le monde. Mais, dès qu'il s'agissait de dire pourquoi lui, Picasso, était surgi dans l'histoire moderne, l'histoire moderne de la peinture, ben, c'était un peu extraordinairement restreint. C'était Cézanne.
Et Dieu me l'a
Cézanne, sacré. Le vieux Picasso, on voulait, vous savez, on voulait lui reprendre une guitare préparée, une merveille, que le musée d'art moderne de New York a fini par avoir, mais il ne voulait pas la vendre. On a été obligé de la lui troquer contre un César. Picasso, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent avec sa peinture, qui faisait marcher les marchands du monde entier, qui était donc dans une situation absolument princière, souveraine. Il ne se serait pas séparé de sa guitare, sauf si on lui donnait un César. C'est magnifique. Non? Et bien, ils sont tous pareils. Ce sont des maniaques de la généalogie symbolique, c'est-à-dire qu'il y a Cézanne, il y a Rodin, alors Matisse et Picasso, pour le XXe siècle, ils s'observent, ils savent que c'est eux, que tout le reste, c'est du décor. Mais c'est comme ça, au fond, ce sont des aventures extrêmement serrées entre quelques personnes. Et je crois que c'est démontrable dans tous les cas, c'est très, ça se joue sur les pointes des pinces, chaque métier. Il faut pas, si je fais de la sculpture, il faut que je puisse me libérer de l'effroyable dictature de Rodin qui prend tout. Alors comment vais-je faire pour faire autre chose qui soit au même niveau? C'est très compliqué. Ce sont des parties d'échecs extrêmement subtiles, menées entre quelques
personnes. Quelques joueurs essentiels dans
le
cette filiation,
je crois.
Cette filiation, cette paternité. Parler de Picasso,
c'est pas des pères.
Tout à fait.
C'est génétique, oui, il y a un effet génétique.